RRB Rétro 2025.
Et on lance donc ce midi nos rétros de l'année passée. On commence avec l'actualité sur le territoire hors politique avec vous, Nicolas Legrand. En 2025, on a d'abord mesuré les conséquences des violences insurrectionnelles de 2024 avec une donnée que beaucoup attendaient.
Oui, 264 596, c'est très précisément le nombre d'habitants en 2025 contre 271 400 en 2019. Nous sommes donc 7000 de moins. C'est le résultat du recensement qui s'est tenu au premier semestre en porte-à-porte dans les foyers calédoniens. Jean-Philippe Groutier est responsable du recensement à l'INSEE et il évoque une baisse historique.
Première fois que la population a baissé depuis 1946, ça n'était jamais arrivé.
Le solde naturel fait état de 11 000 naissances de plus que de décès sur ces 6 dernières années. En revanche, il y a eu 18 000 départs définitifs de plus que d'installations sur le territoire. Un solde migratoire négatif qui témoigne du manque d'attractivité de la Nouvelle-Calédonie, même si le recensement ne permet pas de déterminer ceux qui ont fait leur valise en raison des émeutes. Quoi qu'il en soit, qui dit décroissance démographique dit aussi décroissance économique. L'IEOM évoque même un effondrement de l'économie calédonienne depuis 2024. Et sans réelle surprise, le Sérum confirme les prévisions de chute du PIB. La fourchette était de 10 à 15% de perte de richesse dans les destructions. Ce sera finalement 13,5%. Élise Desmazures est directrice de l'ISEE.
C'est historique, malheureusement. Quand on remonte, c'est en 1962 qu'on trouve une diminution du PIB de cet ordre-là. On était à moins 15%. Là, moins 13,5%, ça veut dire qu'on revient au niveau de richesse de 2016.
Un chiffre qui aurait pu être plus conséquent sans l'intervention de l'État à hauteur de 324 milliards de francs, soit un quart du PIB de la Nouvelle-Calédonie en 2023. En 2025, Paris a continué ses interventions financières et a proposé un pacte de refondation économique après les travaux menés par la mission interministérielle de Claire Durieux. Les entreprises sinistrées pendant les émeutes qui ont également poursuivi leur bras de fer avec les assurances pour être indemnisées et couvertes face aux nouveaux risques. Une société d'assurance Allianz a quant à elle décidé de porter l'affaire en justice et d'attaquer l'État pour manquement en matière de maintien de l'ordre. Le tribunal administratif de Nouméa a donné raison à Allianz, mais pas de A à Z. Elle a condamné l'État à verser 3,3 milliards de francs à la compagnie sur les 18 milliards qu'elle avait demandé. Satisfaction affichée tout de même de Jean-Michel Calba, le président du COSODA, représentant les assurances.
C'est une victoire parce que ça reconnaît la défaillance de l'État en matière de sécurité. C'est une décision qui va marquer une forme de reconnaissance pour les victimes. C'est une victoire symbolique.
Victoire symbolique puisque l'État peut encore faire appel de cette décision qui pourrait sinon faire jurisprudence. Un dossier qui, dans ce cas, risque de s'échelonner sur plusieurs années. Malgré tout, certains choisissent d'y croire et 2025 aura été ponctué de quelques signes de reprise et d'espoir. Parmi les symboles, le 18 novembre dernier, le froid savoure l'instant, pour reprendre le célèbre slogan de Coca-Cola. Les équipes réunies sur le champ de ruines de l'usine de Montravel annoncent la création d'un nouvel outil industriel à Païta. Christophe Bada, son directeur.
Ça fait déjà des mois qu'on a la tête dans les planches à dessin. Mais à un moment donné, il faut sortir de son bureau et puis expliquer aux gens ce qu'on fait. C'est un projet d'une ampleur importante et donc on a besoin de ce soutien pendant les années de la reconstruction.
Autre symbole, Biscochoc, dont l'unité de production a également été détruite dès les premières heures des émeutes à Ducos et incendiée depuis à plusieurs reprises, a décidé de renaître de ses cendres. Devenue les cacaos du Pacifique, l'entreprise de Dominique Lefebvre a poursuivi et finalisé un projet remontant à 2020, celui d'une nouvelle usine à Nouville.
C'est un chemin parsemé de longues embûches et aujourd'hui c'est un peu la concrétisation et puis c'est aussi pour redonner de l'espoir à tous ceux qui bâtissent et qui rebâtissent comme moi.
Et la montée en puissance de la production se fera en ce début d'année à la conquête de nouveaux marchés.
La mine se cherche toujours un avenir. La filière continue de subir la crise du nickel et les conséquences des émeutes de 2024.
Oui, en avril, la direction de la SLN a réalisé une tournée inédite. Opération communication à la rencontre de ses 1900 salariés pour présenter la feuille de route de l'entreprise et notamment son plan de départ volontaire. Le site de Thiot est resté fermé en 2025, tandis que Kwawa a pu recommencer l'extraction mais pas l'évacuation du minerai vers la mer. Une piste de roulage sera réalisée pour pallier la destruction de la serpentine. Dans le sud, PRNC se cherche toujours un repreneur qui discute en ce moment avec la banque Rothschild et l'État. Par ailleurs, l'usine de Goro a changé de président l'année dernière. Thibaut Martelin a été nommé pour succéder à Béatrice Pierre. Et dans le nord aussi, les visites se sont poursuivies pour relancer Vavuto à l'arrêt depuis 2024. Deux groupes asiatiques se sont positionnés et ce sont finalement les Chinois qui devraient faire une offre prochainement, nous a dit fin décembre le PDG de la SMSP, Karl Terbi.
On attend une offre pour la mi-février qui correspond à peu près au nouvel an chinois. On sait qu'ils travaillent beaucoup sur la possibilité de reprendre le process NST.
La SMSP qui a aussi trouvé une solution pour repousser l'échéance d'une cessation de paiement de la NMC, toujours touchée par les blocages à Nakheti. Une bouffée d'oxygène venue de son partenaire coréen POSCO, qui a payé en avance des bateaux de minerais pour renflouer la trésorerie de la société.
Depuis 2024, les habitudes des Calédoniens ont été modifiées, notamment leur façon de voyager.
Oui, moins d'avions et moins de destinations. Air Calin a dû baisser la voilure face à la baisse de voyageurs. En 2025, la compagnie a pleinement exploité la ligne Nouméa-Paris via Bangkok. Et grâce à cette nouvelle stratégie et au plan de restructuration de l'entreprise, Air Calin annonce même un atterrissage à l'équilibre ou dans le vert. Ça plane donc plutôt pour le PDG d'Air Calin, Georges Sélefen.
Le bilan est assez positif, on fait plus 10 à 15% de trafic supplémentaire avec un taux de remplissage entre 80 et 90%, ce qui conduit à atterrir à l'équilibre, voire positif.
ACI doit d'ailleurs recevoir un long courrier, un Airbus A350 en fin d'année pour poursuivre sur cette stratégie. Dans les airs toujours, le déménagement des activités d'Aircal de Magenta à la Tontouta a aussi marqué l'actualité de 2025. Un dossier qui a connu quelques turbulences avec des manifestations des usagers des îles. Un déménagement qui était pourtant dans les cartons depuis longtemps, mais qui était devenu urgent selon le président du gouvernement en raison de la fragilité des finances publiques. Parmi les autres décisions qu'il a qualifiées de difficiles à prendre, Alcide Ponga a annoncé la fermeture de la maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris, un lieu devenu pourtant emblématique.
Compte tenu de la situation financière globale de la collectivité, il était clair à un moment donné qu'il fallait faire un choix drastique.
Et sa fermeture définitive interviendra début janvier.
Une fragilité des finances publiques qui s'est aussi faite ressentir dans la communauté éducative.
Oui, l'enseignement privé a fait parler, notamment l'ADEC qui est descendue dans la rue le 9 octobre et a manifesté devant le Congrès pour pousser un cri d'alarme face aux élus. La direction diocésaine de l'enseignement catholique était menacée de cessation de paiement et avait annoncé ne plus vouloir faire fonctionner ses cantines et ses internats. Quelques jours plus tard, le Congrès se saisit du dossier et accorde 400 millions de francs pour les enseignements privés et demande en contrepartie un audit de gestion de la DEC. Mais malgré cette bonne nouvelle sur le plan budgétaire, son directeur ne décolère pas et annonce le lendemain sur notre antenne mettre sa menace à exécution et ne plus distribuer de repas pendant 15 jours. Manuel Van Arscott.
Devant vous là ce matin, c'est un homme en colère qui se présente. Hier, la DEC a été insultée. On nous accuse de mauvaise gestion.
La province sud dénonce effectivement un bras de fer, Gilles Brial.
Nous, on a vraiment le sentiment que le directeur de la DEC fait un bras de fer avec les collectivités et prend en otage à la fois les élèves et leurs parents pour nous mettre la pression.
De son côté, Isabelle Chamorro, membre du gouvernement en charge du dossier, lui demande également de rouvrir les cantines et enjoint le directeur de la DEC à plus de modération dans ses propos et davantage de responsabilité vis-à-vis des élèves, des familles et des personnels. Un courrier qui semble avoir fait la différence puisque les cantines rouvriront et un chantier sera mis en place pour le financement de l'enseignement privé.
En 2025, les forces de sécurité intérieure et la justice se sont montrées particulièrement vigilantes, même si la Nouvelle-Calédonie n'a pas connu de flambée de violence comme en 2024.
Oui, l'État a maintenu un nombre de forces de l'ordre importantes. Saint-Louis est resté sous verrou, par exemple, et une attention toute particulière a été portée sur l'ensemble des dates jugées sensibles, comme le 13 mai et le 24 septembre, où 2600 policiers et gendarmes étaient déployés sur le territoire. Anaïs Haït-Mansour, la directrice de cabinet du haut-commissaire, martèle un message de fermeté.
Vraiment, il n'y aura aucune complaisance. Être là où il faut, quand il le faut, c'est vraiment être là pour rassurer, être visible, prévenir aussi la commission de faits et intervenir rapidement pour protéger la population.
Comme le 13 mai, le 24 septembre se sera globalement déroulé dans le calme alors que la vente d'alcool avait été interdite pendant 11 jours. En 2025, les pompiers ont malgré tout continué à faire face à des feux criminels et notamment des incendies d'entrave dans certains quartiers, certains soirs. Ils doivent intervenir sous escorte des forces de l'ordre, comme nous l'a rappelé Géraldine Bourgoin, chef de corps des pompiers de Nouméa, une situation que les pompiers vivent.
Mal, c'est complètement une incompréhension pour nous. On vient porter secours, on vient aider les gens et on se fait caillasser. Avant, on était sur un caillassage à peu près à une fois par an. Malheureusement, on est quand même aujourd'hui sur un ou deux par mois.
Une insécurité du quotidien qui mine aussi les efforts de recrutement de soignants. En juillet, alors que les chiffres font état de 240 médecins à avoir quitté le territoire pour seulement 90 arrivées de docteurs, notamment étrangers, une convention cadre a été signée entre l'État et la Nouvelle-Calédonie pour mieux protéger ses professionnels de santé. Jacques Billon, le haut-commissaire.
C'est une priorité au regard du service vital que rendent ces professionnels à toute la population. Nous disons, ça ne peut pas être une fatalité. Ce n'est pas une situation acceptable.
Les efforts déployés par les autorités ne suffisent pas à juguler totalement ce fléau qui gangrène l'ensemble du territoire. Certains évoquent même un pansement sur une jambe de bois puisque les agressions ont continué, et notamment au Medipôle. Les professionnels de santé ont exprimé leur colère à la veille de Noël en se rassemblant devant le CHT. Emmanuel Soria est délégué UTCFE-CGC.
comment venir travailler avec la boule au ventre de se dire qu'on risque de se faire violenter sur le travail. Dans une chambre, une collègue s'est fait tabasser à coups de poing, coups de pied par un malade. Mais ça, c'est le haut de l'iceberg. Il y a des violences quotidiennement, d'insultes, de menaces de mort. Et ça, c'est le quotidien.
L'objectif de cette mobilisation était d'alerter l'opinion publique qui a été particulièrement touchée également par des agressions touchant des personnes âgées. En mai, par exemple, les forces de l'ordre ont fait une découverte macabre à Dimbéa. Un homme de 90 ans a été retrouvé mort dans les décombres d'une habitation brûlée plusieurs jours plus tôt. Sa voiture avait été volée et incendiée. Et à la fois, c'est un septuagénaire tabassé et blessé lors d'un vol de voiture sur le parking d'un magasin en plein jour. Écoutez la colère de Florence Roland, maire de la Foix.
Je crois que nous sommes tous en colère. C'est quand même des faits d'une violence inouïe, gratuite, lâche, qui est aussi révélatrice. Et puis les émeutes de faits violents, complètement décomplexés en pleine journée. Ça, pour nous, c'est inacceptable. Ça suffit.
Et dans ces dossiers, la justice a interpellé les suspects.
Alors que la justice a terminé le traitement des dossiers directement liés aux émeutes, l'année 2025 a été marquée, Nicolas, par plusieurs affaires médiatiques.
Oui, vous le savez, la justice reconnaît la présomption d'innocence. L'opinion publique, elle, penche souvent pour la présomption de culpabilité. Car selon le dicton, il n'y a pas de fumée sans feu. Et à ce sujet, les pompiers de la DSCGR savent de quoi ils parlent. Son directeur, le général Marquis Leccia, est accusé par son adjoint de harcèlement et de détournement de fonds. Plusieurs enquêtes sont ouvertes et le général est démis de ses fonctions par le gouvernement. Son avocate, Maître Lepape, évoque un coup de massue.
Là, tout s'arrête. Le monde s'abat sur vous.
Le général Marquis Leccia est sidéré mais combatif. Quelques mois plus tard, après plusieurs auditions, patatras, la procédure s'effondre et le général est réhabilité par la justice qui classe l'affaire faute d'infraction. Son avocate n'en doutait pas et elle ne compte pas en rester là.
Ce qui signifie qu'il n'y a absolument rien à reprocher à M. Marquis Leccia. Nous souhaitons démontrer cette cabale et nous irons en dénonciation calomnieuse, voire d'autres procédures pénales en effet.
Des procédures sont également toujours en cours concernant le directeur adjoint qui est visé notamment pour des questions de harcèlement. Autre affaire, celle du directeur du lycée de Pointe-Boute, lui aussi mis à pied pour des présomptions de faits extrêmement graves, de viol commis sur une élève. La plaignante changera finalement de version au cours de l'enquête et le proviseur sera déclaré non coupable. Justice toujours, en 2025, le feuilleton judiciaire Pérès a refait les gros titres en librairie ce coup-ci. Condamné une première fois pour assassinat à 20 ans de prison, puis à 15 ans pour meurtre pour avoir tué Éric Martin sur le golfe de Tina, le chirurgien reprend la plume et publie son deuxième ouvrage, Autopsie d'un fiasco judiciaire. Il continue à plaider la légitime défense et estime que ses procès ont été bâclés.
Je suis en état de mort apparente. J'ai tout perdu. Donc maintenant, oui, je me battrai jusqu'au bout pour que la vérité sorte. Je ne me bats pas contre la justice, je me bats pour la justice maintenant. Il faut que la justice fasse son travail.
Et comme jamais 203, le troisième procès du docteur Pérez aux Assises doit se tenir à Lyon en décembre de cette année. Et si l'on ajoute la fin de l'instruction sur les commanditaires présumés des exactions de 2024 et le volet assurantiel, on peut dire que 2026 rime plus que jamais avec justice.
Mais Nicolas, 2026 rime aussi avec Miss.
Et oui, Juliette Collet nous a fait rêver. La Miss Nouvelle-Calédonie 2025 a fait briller la Nouvelle-Calédonie en devenant première dauphine de Miss France derrière la Miss Tahiti. La beauté, l'énergie, l'humour et l'authenticité de la jeune femme de 23 ans a même fait chavirer le jury.
On ne pouvait pas rêver mieux. J'étais tellement heureuse. Je suis trop fière de représenter la Nouvelle-Calédonie et ça apporte aussi une autre image. On entend parler enfin de la Nouvelle-Calédonie pour les paillettes, pour le donner le sourire tout simplement. Donc je suis trop contente.
Et beaucoup d'incertitudes, hein, planent évidemment sur 2026, mais une chose est sûre, on peut compter sur notre Miss en 2026, Juliette Collet, désormais première dauphine de Miss France, pour mettre des paillettes dans la vie des Calédoniens.